La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma. Un podcast présenté par Magali Flores-Longeau.
Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons avec les étudiants de l'Université Paris 2 Panthéon Assas qui ont travaillé sous la direction de Diana Villegas autour du film Soleil vert de Richard Fleischer et nous continuons l'exploration grâce à leurs travaux de groupe de ce film, de ce chef-d'œuvre. Donc nous sommes en compagnie de Lucie Duquesne. Bonjour Lucie.
Bonjour.
D'Isabelle Fiani. Bonjour Isabelle.
Bonjour Madame.
Et d'Elias Abès. Bonjour Aliès.
Bonjour Magali.
Alors nous vous avons réunis aujourd'hui pour ce dernier temps d'analyse. Nous avons déjà parlé du propos du film, hein, c'est-à-dire que derrière l'enquête policière, en réalité, nous avons la découverte d'une société, de ses dysfonctionnements, de sa maltraitance généralisée, à la fois de la nature qui a totalement disparu et des individus qui ont été réifiés. Et nous nous retrouvons là, cette fois-ci, pour regarder davantage du côté de l'organisation politique sociale. Alors peut-être que nous allons écouter un extrait qui va servir de matériau ensuite à nos discussions.
A real bargain, folks, synthetic footgear.
Plastic, plastic, man. We have a large assortment of plastic, man. Some are a little bit chipped, others have hardly any cracks at all.
Quick energy, yellow, soil and made of genuine soy beans.
Soil and frog, 2 D's a kilo, nothing cheap in the market, come together.
Soil and buns, get some genuine soil and buns.
And long, step right up. Soylent Green. Soylent Green right here.
They gave me a quarter of a kilo. I stood in line the whole lobby, Dave, and they gave me a quarter of a kilo. Do you believe that?
But,
hey. Here we are. Here we go. Are you going to put up with this?
Running out of the damn green.
Shh. Idiots.
Some foul up a transport.
This crowd will blow.
I know. Got the scoop standing by, but I don't know if they can even handle this.
When are you going to make the announcement?
As soon as I get up the nerve. About 5 minutes, I guess. Better pass the word.
Right.
This is the police. This is the police. This is the police. I'm asking you to disperse. The supply of Soylent Green has been exhausted. You must evacuate the area. The scoops are on their way. The scoops are on their way. I repeat, the scoops are on their way.
Let's go! Hey, come on!
ce long extrait, tout en bruit, hein, une bande sonore qui est assez éloquente. C'est la première fois dans ces trois épisodes que nous sommes avec un extrait qui est situé à l'extérieur. Jusqu'à présent, on était dans des intérieurs, soit l'appartement dans lequel cohabite le vieux Saul, donc interprété par George G. Robinson, Edward G. Robinson ou Charlton Heston, donc qui interprète le personnage de l'inspecteur Thorn, ou dans l'appartement luxueux, ou dans le foyer, c'est-à-dire le mouroir industrialisé. Et là, pour la première fois, nous sommes à l'extérieur. Lucie, est-ce que vous pourriez nous parler de cette séquence? Comment vous la ressentez en tant que spectatrice? Et qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs?
C'est une séquence assez riche, puisqu'on est vraiment plongé dans une foule. On pourrait la comparer vraiment à une fourmilière. Tout le monde bouge, on essaie de sauver sa peau, d'acheter la fameuse manne. Et on a ce sentiment que d'une minute à l'autre, ça peut dégénérer et qu'il s'agit de survivre, de trouver du Soylent Green avant que, puisqu'on le sait, avant que cela dégénère et que le prochain marché ait lieu. On n'est même pas sûr de survivre jusque-là. Donc il y a quand même une certaine tension lancinante et qui va atteindre son apogée quand les dégageuses vont être utilisées.
Alors, qu'est-ce que vous appelez les dégageuses ?
Les dégageuses, ce sont de grandes, je dirais, un peu comme des tractopelles qui servent à récupérer les personnes qui sont sur le sol et puis à les transporter et à les mettre dans la benne afin qu'elles soient évacuées vers, on ne sait pas exactement où, on suppose l'usine ou le commissariat si on est un petit peu plus optimiste.
C'est votre vision, Elias ?
Je partage absolument cette vision. Et je dirais aussi, alors nous avons eu la bande sonore exclusivement, c'est effectivement très éloquent, très parlant, on dirait des cris, hein, tout droit sortis du 9e siècle, cercle de l'enfer. Donc absolument, je partage cette vision et ça a trait notamment à la réification que mes camarades évoquaient à l'épisode précédent, où la nature ayant disparu quasiment, tout ce qu'il reste à maltraiter, ce sont les hommes.
L'ensemble des êtres humains. Quelle leçon vous tirez de cet extrait, Isabelle ?
On voit qu'il y a une répression des manifestations et des émeutes qui est très forte, qui est autoritaire. On peut qualifier cette...
Cette répression, elle s'opère comment ?
Par la police, avec les gendarmes, les policiers qui sont dispatchés et également avec ce qu'on avait évoqué, les tractopelles.
Voilà. Mais si on s'arrête sur les policiers, comment se présentent-ils physiquement ?
Ils ont des casques, des boucliers, ils sont armés également. Il y a vraiment un contraste entre la population qui est là pour subvenir à ses besoins, pour acheter de la nourriture, et les policiers qui les affrontent en tenue quasiment d'OCRS.
Avec des casques, là, ils sont avec des... qui sont pas avec du plexiglas, on est avec, des casques anti-émeute, enfin, je ne sais pas comment on peut les qualifier, mais on sent rien que la présence, là, de ces barreaux sur leur visage, dans leur casque, on sent la violence. Il y a une violence qui est, même s'il reste, dans le premier temps de la séquence, passif.
Oui, il y a d'abord un premier temps où on a l'impression que c'est un marché, certes, où il y a beaucoup de monde, mais où tout se passe normalement, quasiment. Et à un moment, il y a la police qui intervient et on ne sait pas trop si c'est cette intervention qui fait que les choses dégénèrent ou si elle est justement due à un début de mouvement de masse et de foule qui a fait qu'ils ont dû intervenir. On ne comprend pas trop pourquoi. Je suppose que c'est aussi en lien avec toutes les pénuries qu'il y a, qu'il faut qu'à un moment, on fasse partir les gens du marché parce qu'il n'y a quasiment plus de ressources à acheter, mais que la population est en besoin de se nourrir. Ils essayent d'insister et de rester pour essayer d'avoir une dernière part de Soylent Green.
Vous me parlez de marché toutes les deux. Est-ce que nous sommes véritablement avec un marché ?
En réalité, oui, il y a des petits stands, on vend également de l'eau, mais puisqu'on ne vend qu'une seule et même chose, c'est-à-dire des gens, mais aussi du Soylent de différentes couleurs, toutefois, on peut penser au vu du monopole, qu'il ne s'agit pas réellement d'un marché. D'ailleurs, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on ne différencie pas les commerçants réellement de la foule qui vient les acheter. En fait, ce sont des gens normaux qui sont aussi démunis que ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir... ceux qui achètent et qui n'ont pas d'emploi.
Quand on regarde l'ambiance sur la longueur de l'extrait, qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce que ça évoque comme image pour vous, Elias, peut-être?
Il me semble que précisément, c'est ce que disaient mes camarades, il en ressort un dénuement de la part alors, des manifestants, je ne sais pas si on les qualifie de manifestants véritablement, juste de gens qui essaient de se nourrir, et de l'autre côté, une police complètement militarisée. Et donc cette ambiance, je sais que j'aime bien l'ambivalence et les dichotomies, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve particulièrement dans cette scène, et quelque chose qu'il me semble important de relever également, c'est que effectivement c'est la première scène qui se déroule en extérieur.
Dans les extraits que nous avons choisis.
Dans les extraits que nous avons choisis.
Pas dans le film lui-même. Oui.
Mais qui s'y attarde, du moins. Et on constate toutefois une forme d'enfermement à ciel ouvert. C'est-à-dire que le problème n'est pas simplement... la manière dont les gens vivent en intérieur, isolés, même à plusieurs d'ailleurs, et complètement atomisés dans une société qui n'est plus faite pour eux ni par eux, mais on voit également que, quelle que soit la situation de vie de chacune de ces personnes, ils sont enfermés et ils sont sujets complètement au sens qu'ils sont dominés du début à la fin.
Moi, j'ai l'impression, quand on regarde ces images, qu'on a, puisque c'est un film, on l'a dit, de 73, un film d'anticipation, on a un télescopage de deux séries d'images. Des images que nous avons liées à l'univers concentrationnaire de la Seconde Guerre mondiale, et en même temps, des camps de réfugiés n'importe quel pays actuellement. Et on a l'impression à chaque fois de voir ces mêmes images d'une foule compacte, démunie à tous les sens, hein, physiquement, mentalement, matériellement, et qui est là en train d'essayer ou de tenter de subvenir à ses besoins. Bon, je vois les tickets de rationnement, c'est pour ça que quand vous parlez de marché, j'ai l'impression qu'ils quémandent des choses auxquelles ils endroits, mais ces choses-là sont déjà par nature extrêmement rares.
Il me semble que le parallèle est assez intéressant, mais je pense toutefois qu'il faut s'attarder plus sur le côté concentrationnaire, dans la mesure où, évidemment, étant donné l'époque du film, hein, puisqu'il est sorti, il est sorti en 73. C'est plutôt vers le phénomène concentrationnaire qu'il faut se tourner, et notamment dans nos recherches. Nous nous sommes pas mal penchés sur Arendt et sur en fait ce qu'elle disait
Anna
du fascisme.
Anna Arendt,
oui absolument. Et sur ce qu'elle disait du fascisme. Et il me semble que quelque chose qu'il faut distinguer dans l'univers de Soylent Green, c'est que l'idéologie sous-jacente qui mène au phénomène concentrationnaire à ciel ouvert dans New York est fondamentalement différente. J'ai lu également l'histoire de la Révolution française de François Théré, qui nous explique l'idée de mouvement.
François Furet.
Furet.
Théré, c'est le juriste.
Oui, Furet. Ah oui. Qui nous explique le caractère complotiste et donc évidemment tout le temps dans le mouvement contre les ennemis de la Révolution. Et c'est quelque chose qu'on retrouve autant dans la Révolution française que dans les révolutions socialistes ou les révolutions fascistes même. Et quelque chose qui est assez troublant là, c'est qu'il n'y a plus de mouvement. Il n'y a plus l'idée de rétablir un ordre ou de créer un nouvel ordre. Il n'y a plus cette conception révolutionnaire. Là, c'est uniquement le dénuement. Survivez tant que vous pouvez. Et on perd complètement ce côté-là, précisément parce que l'univers concentrationnaire s'est déplacé de ce qui était considéré pour ces régimes totalitaires comme la conséquence d'un changement qu'ils voulaient amener à l'état de fait dans l'ensemble de la société. Et donc on a un déplacement d'une société qui a l'espoir de détruire, en fait, dans les sociétés concentrationnaires totalitaires, à une société qui, de toute façon, a déjà tout détruit et n'essaye que de se préserver elle-même dans toute l'horreur qu'elle présente.
De retarder cette échéance.
Exactement.
On ne sent pas d'espoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Elias précédemment, c'est-à-dire quand il a parlé d'individus qui sont atomisé, quel que soit le lieu dans lequel il réside, que ce soit dans la classe la plus exploitée ou ceux qui sont possédants.
Oui, on voit qu'il n'y a plus réellement d'esprit de société. On a l'impression que c'est vraiment chacun pour soi. C'est chacun qui survit comme il peut. Et il n'y a pas vraiment de lien, notamment par exemple dans le voisinage. On voit des images où il y a beaucoup de personnes qui sont entassées dans les escaliers des immeubles. Mmh. Mais pour autant, on n'a pas forcément l'impression qu'ils sont en train de s'aider, qu'ils sont ensemble. Il y a plein de petits groupes et de personnes qui sont dispersées, mais il n'y a pas vraiment d'esprit de groupe ou de société, de lien social en tant que tel.
Oui, on pourrait s'attendre à un regain des solidarités pour survivre, comme on le voit d'ailleurs dans par exemple Les raisins de la colère. On voit qu'il s'agit, puisque tout le monde est démuni, de partager ensemble, que ce soit la vie, la mort, les joies. Et ici, on en est totalement dépourvu, et je pense que c'est instrumentalisé. Hein, quand on voit le commissariat, il y a un ordre hiérarchique qui est entretenu. On partage certes les gains de l'appartement du riche homme d'affaires qui est décédé, mais on garde quand même cette idée que c'est chacun pour soi, à la fin de la journée, qu'il faut se débrouiller et que tant pis pour les autres, on ne peut pas s'encombrer des autres.
Qu'est-ce qui apparaît comme discours politique derrière ce film, hein ?
Mais comme discours politique, c'est quelque chose d'assez sombre, hein, qui ne donne pas vraiment à espérer beaucoup de bien. Je reviens rapidement sur ce qu'ont dit mes camarades, à savoir que... Effectivement, il n'y a pas de regain des solidarités, mais je pense que c'est aussi consubstantiel à la nature du problème qu'est la surpopulation. C'est-à-dire, il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde, et les gens partent du principe qu'ils sont adversaires les uns envers les autres. Et il me semble précisément que dans l'idéologie qu'essaie de montrer le film, on a l'impression que c'est quelque chose qui est mis en place volontairement. Alors, il y a certes un épuisement des ressources, mais il y a également une société extrêmement hiérarchique qui s'est mise en place, et qui est totalitaire à la fois par la pratique du pouvoir, on le voit avec les policiers, les pelleteuses, et une manière absolument atroce de traiter les gens, mais également dans la manière dont les gens ont fini par se percevoir eux-mêmes, c'est-à-dire comme du bétail. Ils mangent du Soylent Green, la seule nourriture, comme dans une espèce d'étable.
Oui, dans un élevage intensif.
Absolument. Mmh. Ils sont entassés les uns sur les autres. Il y a certes le chacun pour soi, mais ça, c'est plus une conséquence, à mon sens. Et on a un pouvoir qui s'appuie sur le dénuement et sur le fait que les gens ne se perçoivent plus comme humains en tant qu'ils n'ont plus de droits, parce qu'il n'y a rien à espérer. Il ne peut pas y avoir de droits dans un monde dans lequel... La première et seule préoccupation, c'est de se manger. Pardon. L'absurde. C'est aussi de se manger, oui. De se nourrir et de boire de l'eau.
Oui, d'essayer de subsister, effectivement. Mais si on revient à l'exemple du film dont vous nous avez parlé, Lucie, c'est-à-dire le film de John Ford, Les raisins de la colère.
Oui, je faisais plutôt...
Roman, vous étiez oui. Sur le roman, d'accord, voilà.
Je faisais plutôt référence au roman parce que, bien qu'ils sont tous en compétition, en réalité, il s'agit d'arriver le plus rapidement possible en Californie et chaque personne qui nous double ou chaque personne que l'on entretient, que l'on aide à survivre, en réalité, est un ennemi puisqu'il prendra la place que l'on aurait pu occuper. C'est pour ça que je pense qu'on aurait pu avoir une vision, que des solidarités auraient pu naître dans la société de Soylent Green.
Oui, et je pense qu'entre les deux temporalités, donc celle qui va être ensuite adaptée au cinéma donc par John Ford et le film de Richard Fleischer, on est avec, vous me parlez de société totalitaire, mais on est là aux États-Unis, donc ils sont dans les deux cas avec la culture capitaliste. On est avec une critique beaucoup plus virulente du capitalisme dans le film de 73 que dans celle de John Ford. John Ford, il y a encore l'idée que des solidarités peuvent arriver, même si l'objectif du capitalisme, c'est quand même d'atomiser les uns et les autres et de les mettre en compétition permanente, surtout quand il y a un dénuement.
Oui, effectivement, il y a un début Il existe un début de critique dans le roman de Steinbeck du fait de la séparation de l'homme et de la terre et qui devient en fait juste un objet, alors qu'avant il y avait un côté plus spirituel à l'utilisation de la terre et à ce qu'elle rapportait. Et donc oui, ça s'inscrit je pense dans le même discours, mais c'est effectivement nettement moins fort du côté de Steinbeck qui se concentre sur les hommes plutôt que sur leur perte de lien avec la terre.
Tandis que là, nous sommes avec... aucun espoir.
Oui, on voit qu'il y a vraiment un délitement des structures sociales. Ils sont atomisés, tout à fait, comme on l'a dit. Et il y a en parallèle une émergence de structures alternatives à la place de l'État de droit et d'un État qui serait centralisé.
Respectueux
des droits et libertés. Et ce n'est plus un État qui est légitime. Qui a été élu, choisi par le peuple, mais ce sont des structures alternatives mafieuses, on peut les qualifier ainsi, et surtout une sorte d'oligopole entre les dirigeants politiques, donc le gouverneur Santini, et les dirigeants des entreprises, notamment Soylent Green, qui a un monopole sur... l'un des aspects les plus rudimentaires de la vie, l'alimentation.
Et parallèlement, il me semble assez intéressant de noter que là où ça demeure possible, la société continue avec certaines structures traditionnelles, notamment l'église. Il y a toujours des églises dans Soylent Green.
Oui, il y a des églises, mais enfin, elles ont quand même perdu leur principale...
Elles ont perdu leur superbe, c'est certain. Mais l'idée de garder une forme de structure, c'est, il me semble intéressant, dans la mesure où ce film interroge notre réaction face à des circonstances exceptionnelles. Le dérèglement climatique, c'est quelque chose à laquelle nous ne sommes pas habitués du tout. C'est-à-dire que dans ce monde, tout a été déréglé au fur et à mesure par l'activité humaine. Et donc, dans des circonstances exceptionnelles, il est normal de prendre des actes au niveau politique, juridique, différents, dans le but de rétablir une forme de normalité. Or, quand le dérèglement est tel, que les dommages sont tels, et que désormais ils se portent sur les humains eux-mêmes, il n'est plus possible de faire un retour en arrière. Et donc, l'exception devient une norme de facto. Et là où on essaye de préserver ce qui était avant l'état de droit, c'est uniquement dans ces remnants que sont les structures traditionnelles comme l'Église, même si évidemment son usage n'est plus le même.
Oui, parce que l'Église, si vous voyez, elle est même pervertie. Elle n'est plus qu'une sorte d'accueil de SDF. Et quand on pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui veut essayer de se confesser, ben, en réalité, il y a un tueur.
Oui.
Donc en fait, qu'est-ce qui reste de l'Église ? Et le prêtre lui-même n'a plus l'air d'y croire. Hein.
Mais c'est nous montrer précisément que ce qui était à l'origine l'état social prévalent, qui était la situation normale, a disparu, même si on a essayé de la préserver autant qu'on pouvait. Mais face à des circonstances qui naturellement sont exceptionnelles et ne peuvent plus revenir en arrière, toutes ces structures-là aussi ont été perverties.
Bien sûr. Oui, vous avez raison. Mais il y a une séquence qui est peut-être une séquence qui peut... Enfin, elle est composite, elle est à la fois tragique et puis elle a quelques traces, mini-traces d'espoir. C'est la bibliothèque. Mini-traces d'espoir.
Alors, oui, effectivement, vraiment minime, cette trace d'espoir, puisqu'il s'agit de... même pas une dizaine de personnes âgées qui...
De vieillards, oui.
Je n'osais pas le dire.
Oui,
de vieillards qui se rassemblent dans un endroit sombre, certes où il y a des livres, qui a l'air un peu plus confortable que l'extérieur, mais enfin ça n'apporte pas énormément d'espoir du fait de leur âge. En fait, on a du mal à croire que l'espoir va leur subsister, puisqu'on sait qu'ils ne vont pas tarder à mourir, si ce n'est pas par nécessité, ils vont sûrement mourir de faim.
De vieillesse.
De vieillesse, de maladie, de... Et également aussi, hein, c'est ce qui arrive à Saul. Officiellement, il n'est pas si malade que ça. Mais il fait le choix de mourir. Alors pourquoi fait-il le choix de mourir ? Allez-y, Elias.
Il me semble précisément que dans ce tableau assez gris, hein, d'une réalité qu'on espère n'adviendra pas, ça reste finalement le dernier droit de l'homme. Et ça nous montre aussi toute la perversion de cette société. Le seul droit qui subsiste, c'est celui de mourir.
De choisir le moment de sa mort.
Absolument.
Et si je peux ajouter un truc.
Oui, allez-y, Isabelle.
Ça reste quand même le dernier droit de choisir le moment de sa mort, mais par contre, ce n'est pas pour autant que les droits de l'homme à une fin digne sont respectés, vu qu'après, il n'y a aucun, on sait qu'il n'y a aucun respect du cadavre et de la dépouille humaine. Et c'est quand même un des principes fondamentaux aujourd'hui, encore dans l'État, qui est de respecter le corps humain, que ce soit durant la vie ou même après la mort.
Comment vous ressentez ce film quand vous le regardez en 2023, Lucie ?
Je trouve qu'il est assez intéressant parce qu'il a quand même bien vieilli. Mais...
Ah, je sens une pointe de critique.
C'est
un vieux film pour vous.
Non. En fait, il est vieux dans les effets qui sont utilisés. Toutefois, le propos reste assez moderne et assez accessible. Donc, non, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, mais qu'il a quand même bien vieilli. Ce que je lui reproche, c'est de ne pas avoir assez travaillé sur certains aspects que j'aurais voulu. Enfin, après, il aurait duré trop longtemps, mais j'aurais voulu qu'il se penche un petit peu plus sur d'autres aspects, sur expliquer comment on en était arrivé là véritablement, et ne pas se contenter d'une introduction très rapide.
D'accord. Vous vouliez pas une dystopie, vous vouliez quasiment un film correspondant à l'époque dans laquelle il a été réalisé.
Non, j'aurais voulu une dystopie, mais avec un peu plus de contexte, notamment comment on en était venu à arriver à l'instauration d'une mafia et que l'état de droit ait disparu. J'aurais voulu qu'on ait un peu plus d'indices sur l'élaboration d'une telle société. Parce que là, on voit juste ce qu'il faut éviter, mais on a du mal à savoir comment et à quel choix ils ont fait et qu'il ne faut pas qu'on fasse.
D'accord. Elias, pour vous ?
À mon sens, il est déjà très intéressant dans la mesure où il va cristalliser une forme d'angoisse du début des années 70 dont on a parlé au premier épisode. Mais quand je le regarde aujourd'hui, alors je vais peut-être paraître un peu vieux dans ma tête, je me dis que ce film qui a tenté de nous montrer une image extrêmement morne de la société qui pourrait advenir, par sa colorimétrie en tout cas, sa mise en scène, est en fait très colorée. Moi, quand je me balade dans les rues de Paris, je ne vois que des voitures noires, que des voitures blanches ou des voitures grises. Et je me suis vraiment posé la question de la couleur en regardant ce film. Parce que, précisément, on essaye de nous montrer quelque chose d'atrocement sombre, qui ne suscite aucun espoir, qui ne peut susciter aucun espoir. Les seules choses qui ont véritablement de la couleur, c'est le Soylent Green. Il y a trois couleurs, donc vraiment formidable. Et pourtant, je vois la manière dont les personnages sont habillés, dont les rues sont montrées, et j'ai toutefois l'impression de voir un peu plus de couleurs que j'en vois aujourd'hui. Alors, c'est quelque chose très étonnamment
c'est
qui m'a...
C'est très étonnant. Donc, oui. Vous voyez de l'espoir dans ce film. C'est bien, Isabelle. Vous aussi, vous voyez un petit chemin d'espoir ?
Alors, je ne pense pas qu'on va être exactement sur la même longueur d'onde.
C'est fait pour ça.
Mais, alors, à mon sens, il y a... quand même, on voit une certaine évolution dans les différentes problématiques sous-jacentes qui sont traitées dans le film. On voit une évolution sur la question des droits bioéthiques. Aujourd'hui, on sait qu'il y a clairement, en France en tout cas, des garanties pour l'état de droit. Les droits de la dépouille, les droits du corps humain. La bioéthique, elle évolue en plus aujourd'hui... beaucoup, surtout ces derniers temps. Mais on voit aussi qu'il y a quand même beaucoup de chemin encore à faire aujourd'hui, et on constate que quand même, depuis 50 ans, les problématiques étaient déjà d'actualité, et c'est aussi un peu désespérant de voir qu'on est encore en train de traiter les mêmes problématiques 50 ans plus tard, et que ça n'évolue pas tant que ça. Donc je dirais pas vraiment que j'ai beaucoup d'espoir, mais Peut-être pour revenir sur la question des couleurs dans le film, encore une fois, les couleurs sont utilisées de façon à mettre en exergue les inégalités. Donc, dans les appartements luxueux et dans les tenues des femmes objets, beaucoup de couleurs. Par contre,
très vives,
exactement. Mais par contre, pour le reste de la population, ce sont des couleurs très ternes, qui sont salies, qui sont quasiment délavées. Comme Elias a pu le mentionner, la seule couleur qu'il y a dans leur vie est le Soylent Green. Mmh. Donc c'est vraiment le seul espoir, le seul but de leur vie. Le seul élément.
Coloré
et sur lequel est portée toute leur attention et tous leurs efforts.
Et malgré tout, si je pourrais juste conclure ce que disait ma camarade, parce que je suis en fait d'accord en réalité, ma saillie sur les couleurs n'était pas si sérieuse que ça. En réalité, je pense qu'on a quelque chose qui me fait très peur, cet appel à l'ordre, toujours. C'est-à-dire qu'on voit que ces gens sont prêts à se soumettre et à devenir des objets. Alors, soit des objets en particulier pour les femmes dans le film, soit simplement des commodités. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une ségrégation qui se fait où les humains se considèrent eux-mêmes comme des objets dont on peut disposer pour l'ordre. Parce que on voit bien que c'est ce qui manque à travers toutes les scènes où on voit les gens grouillés, ils sont dans une étable, ils sont vraiment réduits à l'état de bétail. Ce qui me fait très peur, c'est quelque chose vraiment dans une moindre mesure, je veux pas du tout m'affoler là-dessus, mais depuis 2015, les états d'urgence, ce genre de choses, j'ai peur qu'on arrive à un état d'exception normal. Et qu'au fur et à mesure, les passions que les gens ressentent au niveau de la peur, de la sécurité, du besoin de sécurité, du besoin d'ordre, parce qu'elles sont considérées légitimes, supplantent la légalité au sens strict du terme. Et c'est quelque chose, notamment, que Carl Schmitt, bon, alors qu'il a fait un tour chez les nazis, donc tout ce qu'il a dit n'est pas forcément d'une qualité formidable, mais c'est quand même un grand juriste qui nous dit précisément que la légitimité, quand elle supplante la légalité, est la graine de la dictature. C'est que la dictature, c'est quand la règle exceptionnelle devient la norme. Oh. Et moi, c'est ce qui me fait peur là-dedans.
Oui, mais il attire effectivement sur ce délitement social, ce délitement politique, cette transformation, et il nous amène à nous interroger. Quelle est notre responsabilité en tant qu'individu? À quel moment nous avons baissé les bras en acceptant cette exploitation éhontée de la nature, exploitation de nos semblables? Oui, je trouve que moi, il n'a rien perdu de son propos. Alors, effectivement, après, il est marqué par l'époque dans laquelle il a été réalisé. Les couleurs du film le traduisent, mais en même temps, il résonne avec nos préoccupations, et en particulier les vôtres, celles de votre génération. Merci en tout cas, merci Lucie, merci Isabelle, merci Elias de vous être prêtés au jeu de l'entretien croisé autour de ce film sur lequel vous avez travaillé avec vos groupes respectifs, et continuez à aller voir des films.
Merci
Magali.
Merci à toutes et à tous. Merci à Diana Villegas, évidemment, d'avoir une fois encore accompagné les étudiants dans ses travaux droit et culture. Et merci à Léobardo Arango. Au revoir à toutes et à tous.